Clémence Denavier.
Bonjour, bienvenue sur RFI, c'est le goût du monde. Le samedi ici, autour de la table, nous parlons de ce que nous mangeons, de produits, de la terre, des hommes, des histoires que ces produits rappellent, des émotions qu'ils suscitent à fleur de goût. Aujourd'hui, nous parlons d'une déesse sauveuse, délicieuse, indispensable, incontournable, chic ou rustique, dorée à souhait, craquante ou douce, fondante. Aujourd'hui, nous fondons pour la pomme de terre avec Marc de Ferrière-Levaillé.
Ce qu'il nous faudrait, c'est des bonnes patates.
C'est quoi des patates, mon précieux? Qu'est-ce que c'est?
Pommes de terre, idiot. En bouillie, en purée, en rondelle dans un ragoût.
De bonnes grosses frites dans l'huile.
De nos jours, la vie est dure. Quand on est une petite patate, qu'on soit mûr ou pas mûr, il faut bien se tenir sur ses pattes.
En Amérique du Sud, très haut dans la cordillère des Andes, la grande déesse pomme de terre créa un tubercule à son image. Il germa à son tour et produisit d'autres tubercules. C'est ainsi que naquit la merveilleuse pomme de terre.
Mais moi, ce que je préfère, c'est la pomme de terre. Et tout dénudé, et tout étalé, tout écrasé, en purée, en petite rondelle, en bagatelle, en ritournelle. Et oui, c'est elle, oui, c'est bien elle.
Bonjour Marc de Ferrière-Levaillé.
Bonjour.
Vous êtes professeur en histoire économique et sociale à l'université François Rabelais à Tours, historien de l'alimentation, auteur et pincé fondu de pommes de terre. On peut vous présenter comme ça, j'espère.
Oui, oui, tout à fait. À pommes de terre, je suis dedans depuis plusieurs années.
Est-ce que vous confirmez ce qu'on vient d'entendre dans le mix sonore mitonné par Jérémy Bessel, réalisateur du Goût du Monde? La pomme de terre nous vient de la grande déesse Papa Pomme de Terre?
Tout à fait, tout à fait. C'était une déesse dans les civilisations andines, les premières civilisations andines, celles qu'on appelle la civilisation Mochica, qui avait des superbes poteries en forme de pommes de terre, et c'est une des déesses fondatrices pour eux.
Et on a des poteries qui sont rondes comme une pomme de
terre.
On a
des poteries qui ressemblent à des pommes de terre, des grosses poteries qui ressemblent à des pommes de terre. Si vous allez au musée Jacques Chirac maintenant, vous pouvez en voir.
Comment est-ce qu'elle est arrivée, cette pomme de terre? Quel a été son trajet autour du monde? Comment a-t-elle traversé la mer? Comment est-elle arrivée en Europe?
Alors, elle est née dans les hauteurs des Andes. Elle est descendue, on ne sait pas trop comment, dans les plaines. Et les conquistadors l'ont trouvée. Et l'ont rapportée en bateau, comme d'autres produits à cette époque. Sans doute Christophe Colomb, déjà, peut-être, dans un de ses voyages, l'avait ramenée en Espagne. Et là, elle est devenue un cadeau royal. C'est-à-dire que les rois espagnols donnaient ces produits alimentaires qu'on connaissait pas aux grands souverains d'Europe. C'est comme ça qu'elle est arrivée en Italie. Comme ça qu'elle est arrivée en Autriche et en Allemagne.
Et en Italie, elle s'appelait pomme de terre. Pomme, ou je ne sais pas, pomodoro de terra, je ne sais pas comment
ça s'appelle. Non, patata.
Patata.
Et en fait, au début, on a des doutes parce que cette première pomme de terre, elle n'est pas jolie, c'est une forme tordue, noire, pas belle. Et à un moment, on se demande si c'est pas une truffe. Et donc, on l'appelle aussi truffiole, par exemple. Ça existe encore dans le Massif central en France, cette appellation. Au départ, elle est cultivée dans les jardins des souverains. Et puis, les botanistes s'intéressent à elle et l'étudient parce que c'est un produit compliqué, puisqu'on mange quelque chose qui n'est pas le fruit du légume. Mais même pas, c'est pas le fruit dans la terre non plus. Quand vous ramassez une betterave ou un radis, il a poussé en terre. Le fruit de la pomme de terre, c'est la pomme de terre, elle donne une fleur, et la fleur, elle devient un fruit, comme toutes les plantes à fleurs. Et ce fruit, on le mange pas, c'est une graine. Ce qu'on mange, c'est quelque chose qui est une excroissance sur la racine, et qui ne vient que quand il y a des conditions bien spécifiques qui lui permettent de grossir. C'est-à-dire qu'on peut ne pas avoir de pomme de terre en plantant une pomme de terre.
Est-ce qu'on s'est méfié d'elle également comme on s'est méfié de la tomate à son arrivée en Europe?
On s'est méfié d'elle parce que comme la tomate, c'est une solanée, les solanées, c'est une immense famille qui contient des plantes problématique. Il y a par exemple la belladone, qui est une plante toxique, mais la pomme de terre aussi est toxique. On ne peut pas la manger crue, on ne peut pas la donner à manger crue aux animaux. Si on la laisse à la lumière et qu'elle verdit, elle devient poison. Donc elle est une plante qui inquiète aussi, parce que elle pousse dans la terre, donc le pays du diable. On sait que certains prêtres l'avaient fait interdire à cause de ça. Et puis parce que elle est toxique si elle n'est pas préparée comme il faut.
Donc il a fallu l'apprivoiser, cette pomme de terre. C'est pour ça que ce sont d'abord peut-être les botanistes qui ont appris à la découvrir. À la...
Les botanistes ont essayé de comprendre ce que c'était, de piger un peu ce produit bizarre.
Cette étrange chose.
Cette étrange chose qui n'est pas un fruit, qui est moche, qui pousse dans la terre en donnant un résultat étonnant. Et puis ensuite, il a fallu apprendre à la préparer pour arriver à la manger. Et puis la troisième étape, ça a été d'arriver à convaincre les gens d'en manger.
Et ça, c'est un personnage, ou en couleur, peut-être, bien
oui,
connu.
Ben c'est un long combat, et effectivement, en France...
Monsieur Parmentier.
Oui, quand on dit pomme de terre, on dit Parmentier, parce que ça a été un des combats de sa vie.
Alors, qui était-il? Quel
a
été son rôle?
C'est un pharmacien militaire qui, pendant la guerre de Cent Ans, suit l'armée en Prusse, voit qu'en Prusse, le roi de Prusse a réussi à imposer la culture de la pomme de terre à ses paysans, et que ce faisant, il arrive à lutter contre les famines, qui est le grand drame de l'époque. Et donc, quand il est fait prisonnier en Prusse, et c'est là qu'il voit ça. Et quand il rentre en France, ça devient son obsession. Donc il est aux Invalides, puisqu'il est pharmacien militaire, aux Invalides à Paris. Et là, c'est son obsession, c'est essayer d'arriver à convaincre que la pomme de terre est la solution à la question des famines. Donc il en cultive dans les jardins aux Invalides.
C'est une solution objective, d'ailleurs.
C'est une solution objective. C'est aujourd'hui encore, d'ailleurs, c'est drôle. Mais aujourd'hui, la FAO dit la pomme de terre est la solution à la faim dans le monde. C'est-à-dire qu'elle tient le même discours que Parmentier il y a plus de deux siècles.
Et pourtant, il y a du trajet qui a été fait. Parmentier, est-ce qu'il a réussi à faire manger de la pomme de terre ou son vrai succès? Quel a été son vrai succès
Son vrai succès a été d'en faire parler. Il a essayé d'intéresser Louis XVI. Et il y a les légendes autour qui courent sur les champs de pommes de terre, les fleurs dans les cheveux, les gardes qu'on enlève pour que les gens les volent.
Oui, parce qu'une des légendes explique que Louis XVI faisait garder dans son potager ses pommes de terre la nuit par les gardes pour pas qu'on lui vole.
Ça, c'est... Alors on dit qu'on mettait les gardes et qu'ensuite on les enlevait pour que les gens les volent et que ça les diffuse.
Et comme ça, on avait envie de manger la pomme de terre du roi comme le roi.
Mais en fait, a priori, c'est pas une réussite. C'est pas une réussite, en fait, pour une raison toute bête, c'est que Parmentier a sans doute pas les bonnes variétés. Il a encore des variétés qui sont les variétés qui descendent directement des variétés venant des Andes.
De la déesse papa.
Oui, mais donc qui sont pas adaptées à notre climat. Et en fait, la réussite, elle viendra au 19e avec des gens comme Villemorin, qui récupéreront des variétés venant du Chili, c'est-à-dire qui étaient déjà descendues s'adapter au niveau de la mer, et qui sont les variétés qui sont à l'origine de tout ce qu'on mange aujourd'hui comme pommes de terre.
Et on était encore loin à cette époque de la purée. Potatoes de James Brown sur RFI, vous écoutez le goût du monde et nous croquons dans la frite, la pomme de terre avec l'historien Marc de Ferrière-Levaillé. Dites-moi Marc de Ferrière, cette pomme de terre, on en parlait, elle arrive, on était au Chili quand on s'est quitté il y a quelques instants. Cette pomme de terre, combien a-t-elle de variétés aujourd'hui?
Il y a plusieurs milliers de variétés en fait de pommes de terre conservées au Centre international de la pomme de terre dans les Andes. La plus grande partie sont a priori pas comestibles, mais peuvent être croisés avec des comestibles. Et ils s'en créent plusieurs par an dans les centres de création. Aujourd'hui, on continue de créer des pommes de terre. Les grands centres de création en France, Germicopa par exemple dans l'Ouest, continuent de créer des variétés tous les ans. Dans l'objectif d'avoir d'une part des pommes de terre qui résistent mieux aux maladies. Le problème de la pomme de terre, c'est la maladie, le mildiou en particulier. Mais pas uniquement, il y a la maladie, ce qu'on appelait la maladie de l'enroulement à la fin du 19e. Donc un des enjeux, c'est d'avoir des pommes de terre qui résistent à ces maladies et si possible en évitant trop de produits chimiques, traitements, etc. Et d'autre part, c'est de faire des pommes de terre qui soient adaptées à l'usage. C'est-à-dire, de plus en plus, on fait des variétés qui sont très spécifiques. Alors, ça date du 19e. On avait au 19e inventé une pomme de terre qui fait rêver tous les amateurs, qui s'appelle l'Institut de Beauvais, qui était une merveille pour les purées. Mais le problème, c'est qu'elle est très fragile. C'est pour ça qu'on l'a remplacée par la Binche au début du 20e, puis par d'autres variétés. Mais donc, c'est un des grands enjeux, c'est d'avoir des variétés très adaptées, et puis avec des rendements si possible, parce qu'il faut que les paysans vivent.
La Binche, c'est une des pommes de terre que l'on mange le plus aujourd'hui dans le monde.
Alors, la Binche, ça a été la grande variété au début du 20e siècle.
C'est une grosse pomme
de terre,
pour
faire les frites à la purée, un peu rustique, qui est excellente et qui a été tellement importante qu'elle est devenue la référence en rendement. C'est-à-dire quand on mesure un rendement, la base 100, c'est la Binche. Et on mesure à partir de ça.
Et la primeur ?
Alors la primeur, c'est génial parce qu'en fait, c'est une pomme de terre pas mûre.
Pomme de terre nouvelle, mais pas terminée en fait.
Pas terminée, c'est-à-dire qu'on la mange avant qu'elle soit à maturité. C'est très rare pour un fruit ou un légume de le manger pas mûr. Et en fait, ça c'est une découverte au milieu du 19e, dans les zones sableuses des côtes, en particulier françaises, Bretagne, Atlantique, où là on découvre qu'on peut récolter les pommes de terre juste formée, avec une peau très fine.
Une pellicule, en fait.
Juste une petite pellicule.
Qu'on peut manger, d'ailleurs.
Qu'on peut manger, qu'on doit manger, et qui a un goût que n'a pas la pomme de terre arrivée à maturité. Et
est-ce que la pomme de terre a toujours autant la cote? Parce qu'il y a eu Parmentier dans son histoire, puis il y a eu aussi le produit gras, qui permet de la frire, qui permet de la transformer. La pomme de terre qui devient frite, la pomme de terre qui devient chips, dont le monde raffole. Est-ce que la pomme de terre brute, qu'on mange à la vapeur, qu'on fait cuire, a-t-elle autant la cote?
Alors, il y a un
autant.
Problème qui est lié au temps de préparation, ce qui fait qu'on sait que quand le niveau de vie des populations s'élève, la consommation par tête diminue, mais elle a une chance. Après l'avoir un peu ignoré, les chefs l'ont redécouvert, hein, Robuchon et sa célèbre purée.
Absolument. Une confrérie des toqués de la pomme de terre que j'ai découverte avec une trentaine de chefs.
Oui, les chefs l'ont redécouvert. Marc Eberlin, dans son restaurant en Alsace, par exemple, fait un plat à pommes de terre et truffes qui est à se damner. Donc les chefs l'ont redécouvert et lui ont redonné des lettres de noblesse et en ont refait un plat qui mérite d'être sur les plus belles tables. Donc on en consomme moins, on peut se demander si on la consomme pas de mieux en mieux.
Et quelles sont les principales rivales de la pomme de terre alors?
Alors dans son domaine, il y a le riz et les pâtes. Pour la consommation, je dirais, courante. Et sinon, elle est sans rivale.
Vous n'êtes pas objectif. Reprenez-vous. Donc, quels sont les rivales de la pomme de terre?
Non, c'est les légumes plus classiques. Mais il n'y a pas vraiment d'équivalent à ce produit un peu bizarre qui a de nombreuses qualités. Je rappelle toujours, et ça surprend toujours les gens, que c'est le légume qui contient le plus de vitamine C. Et si vous la cuisez dans la peau, vous mangez la vitamine C, ce qui n'est pas vrai des légumes verts que vous cuisez à l'eau et où la vitamine s'en va dans l'eau. Dans la pomme de terre, elle reste si vous la cuisez dans sa peau, et donc vous avez vraiment les vitamines. C'est pour ça que les marins l'emmenaient pour lutter contre le scorbut.
Et elle persistait bien aussi, on pouvait la conserver un petit peu.
Mais même dans les campagnes, c'est aussi pour ça qu'elle a fini par gagner. En gros, on peut la garder un an. C'est-à-dire qu'on fait la jonction avec la récolte suivante, et ça, c'est formidable.
Incroyable. Et sur RFI, c'est ainsi, quelle que soit l'heure, il est toujours le moment de prendre son petit déjeuner quelque part. Que mange-t-on à Dakar, Santiago, Londres ou Jérusalem? C'est là que nous sommes aujourd'hui. Guilhem Deltey, notre correspondant, nous emmène petit déjeuner chez Noga Tarnopolsky. Elle est israélienne, d'origine argentine, ce qui ne passe pas inaperçu à table.
On va manger une version israélienne d'un petit déjeuner argentin. Qui est fait avec des ingrédients. Certains tu peux avoir ici, certains tu ne trouves pas. Et certains sont devenus tellement israéliens à cause d'une énorme immigration d'Argentins en Israël entre les années 50 et 70, qu'un Israélien né ici croit que c'est israélien, que même le nom est devenu un nom hébraïque et ils ne savent pas que ça a une origine tout à fait argentine.
Donc c'est un petit déjeuner à la fois salé et sucré, il y a un peu de différentes saveurs.
Les Israéliens ont l'habitude vraiment de choses salées. En Argentine, le salé vient de ces biscuits plutôt salés, faits de graisse, ou ce qui est la chose la plus merveilleuse en Argentine, c'est les croissants, qui sont faites avec cette graisse. Et ça s'appelle media luna de grasa. Ici, si on ne les fait pas fait maison, c'est impossible. Tu peux aussi commander en Argentine media luna de manteca. C'est un croissant au beurre, mais ce n'est pas du tout comme l'européen. C'est plutôt une pâte à brioche. Ici, on n'a pas ça. Mais j'ai apporté le croissant de Jérusalem. Ça s'appelle rúcula. C'est un tout petit croissant avec du cacao, du chocolat dedans, qui est très typique d'ici et qui est utilisé comme produit adaptatif, je dirais, des Argentins ici. Là, on a les alfajores. Ces petits gâteaux qui sont faits avec une confiture de lait, là qu'on a ici aussi, qui s'appelle en espagnol dulce de leche. Ce produit-là, confiture de lait, est devenu un produit absolument adopté pour le petit déjeuner dans la cuisine israélienne. Ce qui n'est pas devenu israélien, c'est le thé qu'on va boire le matin. Alors, on peut le préparer maintenant, c'est un petit rite. Ça se boit d'une façon tout à fait bizarre si on compare avec un thé. Parce que c'est les feuilles, il n'y a jamais de petits sachets. Alors au début, tu dois mettre de l'eau froide pour commencer à mouiller les feuilles. Et là, on commence à ajouter l'eau très bouillante. Mais boire un maté comme ça, c'est... Je dirais que c'est presque universel dans une famille avec d'origine argentine. Tu oses goûter ?
Ah, volontiers.
D'accord, c'est amer. Et ça a un petit goût fumé, je crois.
C'est amer et ça a un petit goût fumé, effectivement, c'est bon.
Marc de Ferrière-Levallée, ça... qu'est-ce que vous inspire ce petit déjeuner argento-israélien ?
Il est d'une richesse extraordinaire, et on sent les mélanges de cultures, là. On sent les différentes racines, on voit bien la fin, la sautée qui est très argentin, et puis ces croissants qui ont l'air d'être très proches orientaux, ça, c'est amusant, c'est intéressant ça.
Ce grand mélange, ça c'est l'alimentation, la nourriture, c'est
oui,
ça
oui, la nourriture c'est ça, c'est des influences mondiales qui se retrouvent avec des choses extraordinaires parfois.
Avec des chemins incroyables autour du monde. La pomme de terre, on dit d'elle qu'elle n'est pas forcément bonne pour la santé, en tout cas pas pour la ligne. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, ça dépend comment on la mange. La pomme de terre, en tant que telle, elle est excellente pour la ligne. Elle a énormément de composants de qualité. Ce qui pose problème, c'est ce qu'on met autour. C'est-à-dire que si vous la couvrez de beurre, d'huile ou de crème, vous allez ajouter des matières grasses qui ne sont pas nécessairement recommandées par le corps médical. Mais la pomme de terre, en tant que telle, il n'y a aucun problème.
Et la frite non plus, d'ailleurs ?
La frite, si on ne la fait pas tremper dans l'huile, si on l'égoutte bien et si on la cuit bien, on peut en manger. Il ne faut pas en manger tous les jours, peut-être, mais on peut en manger sans problème.
Vous avez écrit combien de livres sur la pomme de terre ?
3.
Donc vous aimez la pomme de terre ?
Oui, j'adore ça.
Et quelle est votre meilleure pomme de terre ? Celle qui vous fait fondre ?
Il y en a plusieurs. Oui, il y a la corne de gâte, par exemple, en pomme de terre à l'eau, qui est une pomme de terre traditionnelle des côtes de la mer du Nord, qui ressemble un peu à une rate, qui est une petite merveille. Je parlais tout à l'heure de l'Institut de Beauvais. Quand on trouve de l'Institut de Beauvais pour faire une purée, j'ai jamais mangé de purée aussi bonne.
Parce qu'elle a un goût particulier.
Ah, elle a un goût particulier. Elle donne une purée. Il n'y a pas d'équivalent.
Est-ce qu'il y en a une d'importation, une américaine, qui a votre cœur?
Oh non, elles ont pas le même goût. Les américaines sont plus sucrées. C'est ça qui est intéressant, hein, c'est qu'à partir d'un même produit qui vient des Andes, on a fait des variétés qui correspondent aux goûts locaux. Et les Américains ont des pommes de terre qui sont plutôt plus grosses et plus sucrées. C'est ce qui avait donné les frites dans les fast-foods à un moment, quand ils ont essayé d'unifier le marché mondial et ils sont revenus en arrière.
Merci beaucoup Marc de Ferrière-Levallée. À vous tous, auditeurs de RFI, de nous raconter maintenant comment vous mitonnez vos pommes de terre, si elle a la part belle chez vous, sur la page de l'émission de RFI.fr et sur les réseaux sociaux, Jérémy Besset, Clémence Denavy. On vous donne rendez-vous samedi prochain, tout simplement, même table, même heure, tout de suite, les infos.
Jamais manger des bonnes pétates.